Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, Graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Danny boy. Replay. Leave the fuck alone.
Where the dogs don't bite, children don't cry, and everything always goes just right. And brothers don't fight. Maybe it's just over that hill. Maybe it ain't.
Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale fantastique et horreur avec les nouveaux opus de la collection British Terrors de SC, avec le redoutable donc Homme des Neiges, le redoutable Homme des Neiges de Val West de 1957 et Suceur de sang de Robert Harford Davis de 1970. Nous causerons également Slasher avec deux titres sortis chez ESC, Urban Legend 2 de John Ottman et Urban Legend 3 Bloody Mary de Mary Lambert, et un remake féministe de Slumber Party Massacre, un film signé d'Anishka Esterhazy, et ça c'est paru chez Rimini. Nous causerons également de quelques bombes parues chez Extra Lucid Film, à savoir Sonny Boy de Robert Martin Carroll, L'Ambulance de Larry Cohen, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To de Jonathan Cuartas. Tout ça c'est sorti donc chez Extra Lucid Film, et nous terminerons par un film sorti chez Condor, à savoir Post Mortem de Peter Burgundy. Et l'équipe de Culture Prohibée remercie Karine Bach, Yona Kratz, Milena Fetti, Blanche Aurore Duo, Patrice Berry et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission.
Pour causer fantastique, je suis aujourd'hui accompagné de deux monstres de la Universal. Voilà, ils se sont échappés des grands classiques de la Universal. Il y a Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, hein, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Dans ce studio, il y a également un homme qui, chaque nuit de pleine lune, se transforme en loup-garou. Le fameux loup-garou Picard, et qui en profite d'ailleurs pour enregistrer une émission qui s'appelle « À l'écoute du cinéma », que vous pouvez écouter sur RCA. Et cet homme, il s'appelle Thomas Roland. Bonjour mon petit loup-garou Picard préféré.
Bonjour Damien, bonjour Gégé, et bien évidemment, bonjour à toutes.
Débutons avec les dernières sorties de chez ESC dans la collection British Terrors. British Terrors, collection fort sympathique, dans laquelle on peut voir quelques Terrence Fisher par exemple, quelques films à sketch de la Amicus. Et puis là, deux films, j'ai envie de dire un peu aux antipodes, très très différents l'un de l'autre. Il va y avoir Le Redoutable Homme des Neiges, un film de Val West, un film de 57, un film au scénario de Nigel Neal avec Forest Tucker, Maureen Connell et puis surtout Peter the Legend Cushing. Voilà. Et donc, ce film, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire du docteur Rolason, qui est donc joué par Peter Cushing, qui se joint à l'expédition de Tom Friend pour traquer le mythique Yeti au cœur de l'Himalaya, en dépit des avertissements de son épouse et du mystérieux prêtre tibétain qui dirige le monastère de cette région majestueuse. Voilà. Et donc, évidemment, ils vont partir à la recherche du Yeti. Et évidemment, ça va être un parcours plein de révélations pour le docteur Rolason. Alors, le film est sorti quelques mois après Frankenstein s'est échappé. Et c'était la deuxième fois que Peter Cushing donc, bossait avec la Hammer Film. Et on est, tout du moins dans le fantastique horreur, quoi. Et on est là dans le... J'ai envie de dire... Là, c'est mis dans les British Terrors, bon, parce qu'on parle du Yeti, mais c'est plus, on est plus dans le film d'aventure, en fait. Hein. D'ailleurs, le Yeti, Val West, qui est un fort bon réalisateur, hein, quand même, il ne faut jamais l'oublier. En 57 également, sort un film scénarisé par Nigel Neal également et réalisé par Val West, qui s'appelle La Marque, donc, qui est un film quand même vraiment marquant, hein, dans l'histoire de la science-fiction. Et qui est un film qui va comment dire générer des suites, voilà, et qui est un film qui est vraiment important dans l'histoire du cinéma de genre. Là, on retrouve chez Val West l'idée de faire un film d'aventure, mais en même temps de faire un film aussi très spirituel. C'est très très intéressant. C'est un film qui est filmé dans de très beaux décors, qui utilise très bien le scope et qui est également dont la thématique principale, en fait, plus que le Yeti en lui-même, plus qu'être un film de monstre, la thématique principale, c'est celle qui va opposer en fait cet humaniste qui est donc campé par Peter Cushing et cet aventurier qui est campé par Forrest Kerr, qui est lui beaucoup plus cupide et intéressé en fait, parce que pourrait lui rapporter le Yeti. Le Yeti d'ailleurs qu'on ne voit jamais vraiment dans le film, qu'on ne voit que par que des petites parties. C'est très efficace, ça fonctionne très bien. Hein. Le film est très sobre, très élégant. C'est filmé dans un très très beau, très très beau noir et blanc. Et puis surtout, c'est un film spirituel parce que c'est un parcours spirituel pour le personnage de Peter Cushing qui, au départ, a une sorte de confiance aveugle dans l'espèce humaine et qui va remettre en question ses certitudes en découvrant que ben, l'être humain il peut être beaucoup plus cruel salopard, hein, voilà, que ne peut l'être, en fin de compte, cet homme des neiges qu'on qualifie d'abominable, mais qui ne l'est pas tant que ça. J'ajouterais que il n'y a pas beaucoup de bonus, mais il y a surtout une présentation du film par Gilles Menegaldo, qui est une très très bonne présentation, qui, bon, bien sûr, il remet le film dans son contexte, et tout ce que font toutes les présentations, mais surtout, il soulève plein de pistes d'analyse autour du film, plein de réflexions qui sont très très intéressantes. Et je vous conseille d'ailleurs aussi un ouvrage de Gilles Menegaldo qu'on trouve aux éditions Autrement, consacré à Frankenstein. C'est une étude passionnante. Beaucoup plus bis, beaucoup plus barré, beaucoup plus psychédélique et Suceur de sang. Un film de 71 de Robert Hartford Davies avec, excusez du peu, dans le même film quand même, Patrick McNee et Peter Cushing. Voilà. Il y a aussi Alexander Davion. Il y a aussi la très 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 sexy Imogen Assal, qui était quand même surnommée, c'est pour dire, voilà, son surnom c'était the Countess of Cleavage, voilà. Donc tout est dit, hein, voilà. Donc d'ailleurs, c'est à peu près dans le film, elle est là pour son cleavage, voilà, pour dire les choses très clairement. L'histoire du film, c'est l'histoire d'un jeune diplômé d'Oxford qui part en Grèce. Et qui tombe sous l'emprise d'une vampire aux pratiques sadomasochistes, donc la fameuse Imogen Assal, la fameuse Countess of Cleavage. Ses amis partent à sa recherche en Grèce. Voilà. Alors du coup, bon, très sympa, Patrick McNee, Peter Cushing, pour eux, un voyage en Grèce, ça se refuse pas quand même. Hein, ils volent un peu la vedette quand même à Alexander Davion, du coup, hein, qui est plus censé être le héros du film, mais il est un peu fade quand même pour comme acteur. Et le film est typiquement des années 70. On est plus, on peut plus le rapprocher des deux derniers Dracula de la Hammer, comme Dracula 73. Enfin, en français, ça s'appelle 73. En anglais, ça s'appelle Dracula AD 1972. Je ne sais pas pourquoi, mais il a pris une année lors de la traduction du titre en France. La vampire donc campée par la belle Imogen Assal est en plus une vampire un peu atypique. Elle est séductrice, c'est une femme forte et puis surtout elle a pas l'air d'être trop embêtée avec ce qui embête habituellement les vampires là et tout ça. Elle l'embête pas beaucoup. Elle après c'est le paradis de la défense, c'est le paradis des tripes surréalistes, des images stroboscopiques. Voilà, on est un peu dans un film très très 70s. Et on peut même voir d'ailleurs une actrice de chez Jean Rollin qui joue dans le très bon La Rose de Fer, tournée en Picardie au cimetière de la Madeleine à Amiens, Françoise Pascal, qui est qu'on peut apercevoir dans une scène d'orgie un peu barrée, un peu étrange, voilà. Et bon, c'est un film assez trépidant. C'est assez rigolo de voir Patrick McNee, qui est un diplomate britannique mais qui passe son temps à foutre des bourre-pifs à tout le monde, qui aime bien la bagarre. Il y a même, à un moment, une poursuite entre lui et puis la vampire qui vaut son pesant de cacahuètes. Bon, là, c'est pas la meilleure scène du film, mais je pense que c'est involontairement assez drôle. Voilà. Donc, mais le film est assez sympathique. Son côté un peu porte-nawak, voilà, lui confère un cachet. D'ailleurs, Nicolas Stenzik, dans les bonus, revient hein, sur les problèmes de production rencontrés par le film, le fait qu'il y ait des scènes additionnelles qui ont été tournées après, qui lui donnent certainement ce côté foutraque. Mais c'est pas grave. C'est un film vraiment plaisant. C'est le film d'une époque. Et puis, c'est le film qui vous permettra de découvrir Imogen Assal, hein, quand même, qu'on n'a pas vu beaucoup au cinéma parce que la pauvre est morte très jeune. Elle est née en 42, elle est morte en 80. Et elle a un peu tourné au cinéma, surtout exploité pour sa plastique. Et rien que pour le plaisir de voir Imogen Assal, actrice principalement de télévision. Vous pouvez voir ce film, puis Patrick McNee et Peter Cushing ensemble dans un produit bis avec des jeunes qui prennent du LSD, qui se défoncent, et puis des vampires sexy. Ma foi, j'ai envie de dire, au milieu d'orgies, tout ça est assez sympathique. Voilà, tout ça est bien prude, hein, je vous rassure, mais c'est toute une époque qu'on a plaisir à retrouver.
Ce n'est qu'une légende urbaine.
Légende urbaine, mon cul.
Urban Legend 2, coup de grâce.
On vous a jamais raconté l'histoire de l'homme qui prend l'autostoppeur mort ?
Dans ce studio, un homme qui aime, enfin qui préfère les tueurs masqués aux vampiresses, au charme félinien. C'est Thomas Rolland. Oui, Thomas Rolland, il est venu avec Urban Legend 2, coup de grâce. Urban Legend 2, donc un film de John Ottman qui continue donc cette série dont on avait chroniqué d'ailleurs la ressortie chez ESC il y a peu du premier film. Là, coup de grâce, ça se passe dans le milieu d'une école de cinéma. Et ça démarre par le suicide de Travis, qui est le meilleur étudiant d'une école de cinéma, d'une université de cinéma, qui n'a pas eu un prix qu'il aurait dû avoir, qui lui aurait grand ouvert les portes d'Hollywood, voilà. Et tous les gens qui ont participé à ce projet de film, voilà, universitaire, trouvent la mort. Et donc, d'autres étudiants, dont Amy et Trevor, des passionnés en plus de légendes urbaines, vont essayer de comprendre, enfin de résoudre l'énigme.
Eh bien, moi, j'aime beaucoup Urban Legend 2. Je trouve que c'est un bon slasher. John Ottman, il est monteur, il est musicien. Et je trouve que ça se sent dans la façon dont il a de mettre en scène son film. Et c'est aussi un film qui est très cinéphile. Alors, on va dire, ouais, mais non, ça ne regarde que les cinéphiles, comme on l'a déjà dit. Mais moi, je trouve ça amusant parce qu'il y a plein de petites références à plein de films. Alors, bien sûr, il joue aussi avec les codes, le cinéma vérité, tout ça, de la façon dont il filme des meurtres. Mais il y a, par exemple, il y a un élève russe, d'origine russe, qui a sa propre caméra. Alors, évidemment, c'est l'homme à la caméra. Ah oui. les décors font très expressionnistes. Les décors de l'université font très expressionniste. Il y a plein de petits trucs comme ça qui font que le film, pour moi, est très sympathique. Et en plus, je trouve que c'est très bien fait, je trouve que c'est très bien mis en scène. Il y a un très bon travail sur le son, sur le montage. Et il y a une continuité avec le premier. on retrouve le personnage de la, de la gardienne là, qui fait le lien alors qu'il a changé d'université parce que ceci, parce que cela, elle en disait trop, elle en savait trop, enfin bref. Et donc, elle se retrouve dans une université où il y a encore des meurtres. La pauvre, elle n'est pas aidée. Hein. Et, mais elle se prend toujours pour Foxy, hein, pour Foxy Brown. Et il y a aussi un épilogue que je trouve très drôle, qui est très drôle, qui fait un clin d'œil au premier film. En plus, c'est, enfin, je ne vais pas révéler la fin, mais la fin, elle, elle va un peu à l'encontre de tous les autres slashers. Il y a, de l'ironie, il y a de l'humour. Moi, je trouve que c'est, un excellent slasher. Je me demande même s'il n'est pas supérieur au premier, en fait.
Ah, alors, moi, je trouve qu'il est meilleur que le premier. Voilà, en le voyant, là, en le revoyant, je me suis dit, mais comment j'avais pas gardé un meilleur souvenir de ce film ? Il est meilleur que le premier. Effectivement, alors, en plus, l'idée de tourner dans des... Puisqu'ils filment tous des films, ils font des films d'étudiants. Donc, ils tournent dans des décors, parce que, bon, c'est quand même une université, on croirait les studios Universal. Ils ont des moyens, hein, faut dire. Donc, du coup, il y a des meurtres dans des décors de cinéma un peu originaux. C'est vraiment un avion. Enfin, bon, bref, voilà. Il y a des trucs assez originaux. Comme tu le dis, alors, je crois qu'en plus, c'est son seul film à Hotman. Je crois qu'il n'a rien réalisé d'autre. C'est du gâchis, franchement. Le film est très fun, très drôle. C'est un des premiers rôles d'Eva Mendes au cinéma, qui est toute jeune. Hein, et il y a aussi puis une manière de se moquer des fraternités aussi, tout ça. Enfin, je trouve que c'est assez bien amené. Et du coup, je trouve que c'est un film hautement sympathique. Quand on ressort de ce film, on a la banane en fait, hein, on est heureux, on a vu un très bon slasher, on a passé un très bon moment. Et puis c'est tout faire ce mec quoi quand même, hein, il fait la mise en scène, il me fait le montage, il fait la musique, tu l'as dit, hein, c'est un mec incroyablement doué quand même, John Hotman.
En tant que compositeur moyen. Hein.
Oui, mais enfin, c'est balèze quand même de faire tout ça.
Oui, mais justement, le fait qu'il soit compositeur et monteur l'aide justement à savoir comment découper son film, etc., etc. Parce que être monteur, ça aide à savoir comment découper, placer la caméra. C'est ce qui aide vachement. Hein.
En tout cas, moi, je le préfère au film de Jamie Blanks. Évidemment, il y a eu Scream avant, donc les slashers méta, tout ça, c'est arrivé avant, mais je trouve que celui-là tire très bien son épingle du jeu. Alors, Urban Legend 3, Thomas, c'est différent. D'abord parce que c'est pas un slasher. Bon, pas vraiment.
Un petit peu, quand même.
Pas vraiment, on s'en rapproche. Enfin, tu vas nous dire, d'ailleurs, tu vas nous en parler. Bon, il met en vedette Kate Mara, la toute jeune Kate Mara, qui est une actrice que moi j'aime bien, et qui est un de ses premiers rôles. Hein, voilà. Et puis bon, disons qu'elle se retrouve un peu au sein d'une malédiction, qui est donc tout ça qui est mise en scène par Marie Lambert. Alors, Marie Lambert, c'est, en tout cas pour les amateurs de fantastique, c'est la femme d'un film culte, qui est l'adaptation de Cimetière, d'après Stephen King, qui est vraiment un très bon film, hein, d'ailleurs, hein, qui est un très bon film de Frousse. C'est un souvenir particulier pour moi, parce que moi je l'ai vu au cinéma quand c'est sorti. Donc évidemment, j'avais bien le trouillomètre à zéro quand même, hein, faut dire les choses. Et le film m'avait longtemps poursuivi, en particulier par son final avec le gamin, qui m'avait vraiment foutu les boules. Voilà. Donc on attendait tous beaucoup de Marie Lambert, malheureusement, elle n'a pas confirmé. Et en gros, cette histoire, c'est une histoire de malédiction, Thomas.
Oui, c'est une histoire de malédiction, mais pas seulement. Il y a aussi une histoire de vengeance. Alors moi, je trouve que Marie Lambert n'a pas eu la carrière qu'elle aurait dû avoir. Je pense que Cimetière 2 l'a coulée. Hein, Cimetière 2, qui est un film mal écrit. Il y a deux films en un. Et je ne sais pas ce qu'ils ont foutu les scénaristes, ou le scénariste, je ne sais plus. Mais il y a deux films en un, et le film, on ne sait pas trop ce qu'il raconte. Mais je trouve que Marie Lambert n'est pas une réalisatrice si intéressante que ça. Je pense qu'elle aime le gore, je pense qu'elle aime le bis. Ça, en revoyant Cimetière, ça se sent. Et ça se sent dans ses autres films, ça se sent même dans Cimetière 2. Hein, c'est gore, hein, Cimetière 2. Parfois, on dirait du Fulci. On dirait vraiment du Fulci. Et même ses téléfilms. Les différents téléfilms qu'elle a fait, bon, elle a fait des trucs vraiment affreux, hein, genre Mega Crocosaurus versus Mega Python, un truc comme ça c'est vraiment nul, hein. Mais il y a des thématiques, il y a des choses qui ressortent, c'est le mal qui prend un visage d'ange, ça, dans Cimetière, c'est dans Cimetière, ça. La tromperie, l'imposture, la dissimulation, tout ça, ça traverse toute son œuvre, en fait, ou presque toute son œuvre. Et on retrouve ça dans Bloody Mary, qui est donc une histoire et de malédiction et de vengeance. Donc, au départ, ça se passe dans les années 60. C'est un bal de fin d'études au lycée. Des garçons invitent des jeunes femmes. D'ailleurs, c'est filmé d'une façon assez particulière. On voit une jeune femme qui est toute seule dans des couloirs. D'un coup, il y a des garçons, puis deux autres jeunes femmes qui arrivent. On a vraiment l'impression qu'elle est, qu'elle est prise dans une embuscade. Et ça se confirme par la suite, parce qu'en fait, les garçons, alors je ne sais pas si ça existait déjà à l'époque, mais ils versent quelque chose dans leur verre pour pouvoir en abuser des femmes après.
On est en 69, donc 69, oui, c'est le début de pas mal de drogues et tout ça. Donc
Déjà le GHB, les trucs comme ça.
Voilà. Ouais, ou autre chose. En tout cas, ils versent quelque chose pour abuser d'elle.
Ouais, ils versent quelque chose pour les violer, quoi. Voilà. Et il y en a une, ça tourne mal. Et puis, elle est laissée pour morte. Et le mec qui pense l'avoir tuée l'enferme dans un coffre, dans un grenier. Mais seulement, elle n'est pas morte. Puis elle meurt petit à petit dans ce coffre. Et donc, en fait, l'histoire, c'est cette vengeance de cette jeune femme, donc Bloody Mary. Voilà. Et le scénario est inabouti, parce qu'il y a des thématiques, mais on sent que c'est inabouti, on sent que c'est une petite production, qu'il n'y a pas beaucoup de thunes, etc. Mais il y a des choses, elle dit des choses dont on parle maintenant, c'est-à-dire...
C'est un film Me Too, quelque part.
Oui, c'est un film Me Too avant Me Too. C'est les hommes qui sont responsables de la mort de cette femme, ils se sont devenus des hommes importants, des politiciens, etc. Et donc, elle va se venger d'eux, mais en se vengeant sur leur progéniture. Ce qui n'est pas forcément très cool, parce qu'ils n'ont rien fait, eux. Alors, il y a des bonnes séquences. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes séquences. Il y a des idées de mise en scène. Il y a notamment le fait qu'elle réutilise, à chaque apparition de Bloody Mary, une chanson particulière qui est une chanson de Nikki Larry, I Will Always Be There. À chaque fois que Bloody Mary va tuer quelqu'un, on entend cette chanson. Il y a des passages qui sont très moches parce que c'est fait en image de synthèse, un truc avec des araignées, c'est pas beau. Et par contre, il y a des moments où elle se laisse aller, où là c'est gore, quoi. Là où c'est vraiment gore, notamment dans une chambre d'hôtel, avec elle joue bien sûr avec des histoires de légendes urbaines, etc. Mais c'est inabouti. Tant dans l'écriture que dans la mise en scène. Mais moi, je ne trouve pas que le film soit inintéressant et je trouve qu'on retrouve bien toutes les thématiques qui font le cinéma, tant pour le grand écran que pour la télévision de Mary Lambert. Mais c'est évidemment le plus faible des trois.
Slasher, il y a un slasher dans les années 80 qui a connu un certain succès, qui n'est pas un grand slasher, mais que moi j'aime bien, personnellement, l'original, le Slumber Party Massacre, là, qui est un slasher avec un tueur qui a une énorme perceuse. Voilà, la symbolique phallique est évidente. Hein. Ce film-là, Slumber Party Massacre, donc ce petit classique des années 80, hein, il y a très peu de temps, a été en 2021, donc remaké pour Sci-Fi Channel. Donc c'est plutôt pour la télé, bon, c'est bien gore hein, pour de la télé, mais enfin bon, aujourd'hui, avec tous les circuits de distribution qui existent, on fait des choses très gore pour la télévision. Hein. Et ce Slumber Party Massacre, donc remaké par Danishka Esterhazy, que moi je découvre avec ce film, hein, qui est en fait
une relecture MeToo de Slumber Party Massacre, totalement assumée hein, d'ailleurs, hein, où on a Danny et ses amis qui sont en route pour une inoubliable soirée pyjama et qui en fait vont aller passer la nuit dans une cabane isolée. Et puis, en fait, bah, ça se passe pas très bien parce que y a un tueur, comment dire, armé d'une perceuse qui rôde autour. Mais est-ce qu'elles y sont vraiment allées par hasard? Bah non, évidemment, puisqu'il y a eu un prologue avant où on a découvert qu'il s'est passé des choses hein, dans cette maison auparavant. Et qu'est-ce qu'elles sont allées y faire? Et il y a deux maisons hein, de chaque côté de ce lac, hein, c'est ça qui est assez rigolo. Et dans l'autre maison, il n'y a que des garçons. Et des garçons qui sont des fans de True Crimes, ce qu'on appelle aujourd'hui les True Crimes, les podcasts consacrés. Donc du coup, ils connaissent tout par cœur, les crimes et tout. Tandis que elles, les filles, elles y vont dans un autre but. Et elles y vont dans le but de reproduire la soirée initiale dans laquelle la mère d'une des filles a été la final girl. Et comme elle trouve que sa mère est très torturée par toute cette histoire, décide en fait d'aller tuer le tueur elle-même. Voilà. D'en terminer avec les traumas de sa mère. C'est très con hein, comme postulat de départ, j'avoue. Mais on s'en fout un peu. Tout ça, voilà, c'est un slasher. Et c'est rigolo. Moi, je trouve que ça s'amuse plutôt bien. Son parti pris de faire un film MeToo est assez marrant. D'ailleurs, elle reproduit la scène de douche. Sauf que la scène de douche, c'est un mec qui prend sa douche. Donc, son cul est filmé en gros plan, avec insistance et tout, comme on filme d'habitude les femmes. Là, elle filme un homme comme on filme les femmes. Moi, je trouve ça très drôle. Alors, peut-être que ça va froisser, effectivement, ceux que les affiches du planning familial froissent, qui vivent dans un monde qui date de... Ils ont qu'à retourner vivre au puits du fou, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, mais bon. Et évidemment, ils vont pas aimer hein, ce remake de Slumber Party Massacre, qui a des défauts, hein, qui est pas un grand slasher, mais qui est un bon slasher, parce qu'il s'est hein, quand même un peu fait tacler par des critiques. Moi, je trouve très, très... très, très, très sympathique ce slasher, malgré ses défauts, malgré ses énormes incohérences. Par exemple, il y a une ado très très jeune qu'ils embarquent avec eux dans la bagnole. Bon, à un moment, ils peuvent faire demi-tour et la ramener. Ils décident de l'emmener quand même. Bon, c'est pas très crédible parce qu'elles savent quand même qu'elles vont affronter un tueur terrible, quoi. Donc en vérité, elles n'auraient jamais dû faire ça. Mais bon, bref, il y a quelques trucs comme ça. Il y a la super mécanicienne. Qui a volontairement mis en panne leur propre voiture pour qu'ils revivent la panne qu'a vécu la mère de l'héroïne avec ses copines à l'époque, qui les a obligés à aller dans cette cabane. Sauf qu'au moment de réparer la voiture pour la faire repartir, on s'aperçoit qu'elle n'atteint pas, elle est tellement petite qu'elle n'arrive pas à atteindre dans la voiture les pièces qu'il faut changer. Bon, Damned, la question que je me pose, c'est mais comment a-t-elle fait d'ailleurs à la base du coup pour mettre en panne la voiture, puisqu'elle est trop petite pour atteindre cette... Donc il y a plein d'éléments comme ça qui sont pas très cohérents, mais on s'en fout un peu parce que par contre, bon, on devine un peu tout à l'avance, hein, en tout cas, on devine bien l'identité du tueur et tout ça à l'avance. Par contre, ce qui est très sympa, bon, l'esthétique du film est assez chouette, je trouve, et puis. C'est quand même bien gore, c'est bien rythmé, il y a pas mal de meurtres. Moi, j'aime bien le film. Ce que j'aime bien en plus, c'est qu'au début, toute la première partie du film qui se passe donc dans le passé, elle le filme à travers ce qu'on appellerait aujourd'hui une sorte de male gaze, c'est-à-dire que les filles sont plus dévêtues, plus sexy. Les mecs viennent les dragouiller, elles ne résistent pas aux avances des mecs, elles ont trop envie d'aller de l'autre côté du lac pour aller faire l'amour avec les garçons, pour goûter aux fruits défendus, tout ça. Et dès qu'on arrive en 2021, c'est le female gaze qui prend le pouvoir. J'aime bien toutes ces idées-là de mise en scène et qui font que ça donne un côté sympa au film. Bon, c'est pas vraiment abouti parce que le film, en fin de compte, tombe dans les travers de ce qu'il dénonce et tout. Donc du coup, ça fait un peu foirer le film. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien. Et franchement, c'est quand même un très bon slasher. Hein. Vous en aurez pour votre argent. C'est un slasher qui défouraille sévère. Et la grosse perceuse... Elle fait bien bobo, n'est-ce pas, mon cher Thomas?
Ah, c'est sûr que c'est gore. Hein. Mais c'est vrai que bon, les personnages sont quand même particulièrement bêtes. Hein. Enfin, et comme tu disais, le gros reproche que je fais au film, c'est qu'il se prend un peu les pieds dans le tapis de ce qu'il veut dénoncer. Quoi. C'est ça que je reproche au film. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a des idées. L'idée de départ est intéressante. Mais je trouve que le film, il va pas jusqu'au bout, justement. À un moment, il se perd dans son idée et il se prend les pieds dans le tapis, quoi.
Ça reste quand même un bon slasher, on est d'accord. Pour les amateurs de slasher, ils vont en avoir pour leur argent. Ça défouraille pas mal, ça découpe, ça tronçonne, enfin, ça perce, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça envoie du lourd quand même.
Eh bien, je crois qu'il est temps de commencer la soirée pyjama.
Alix, tu saignes.
C'est pas mon sang. Vérifiez toutes les fenêtres.
Qu'est-ce qui se passe?
Maintenant.
Peu importe ce qu'il fera. On est prête. Russ est vivant et il tue.
Autre film qui envoie du lourd, ce sont trois films là qui sont sortis chez nos amis d'Extra Lucide Film. Et en particulier, un film de 1989 dont je conservais précieusement la VHS depuis des années, que je faisais partie des gens qui l'ont vu, moi, quand c'est sorti en VHS. Lorsqu'on a vu ce film, on s'est tous dit « Mais qu'est-ce qu'on vient de voir ?» C'est Sonny Boy, de Robert Martin Carroll, un film de 89, avec David Carradine, qui interprète, on ne sait pas trop, une femme, un homme. Il est constamment habillé en femme, en tout cas, on ne sait pas trop. Paul Smith, torsionnaire quand même dans le film d'Alan Parker, Midnight Express, difficilement oublié quand même. Et Brad Dourif, en sorte de Brad Dourif, merde, en sorte de punk complètement dingue. Bon, rien que pour la distribution, voilà, c'est quelque chose. Ça raconte quoi, Sonny Boy? Ben, Sonny Boy, c'est un gamin, en fait, que des tarés notoires qui ont la main sur une ville, qui sont des sortes de ploucs, mais des ploucs délirants, voilà, un peu mystiques, un peu étranges, qui vivent dans un endroit reculé. Un peu comme si la baraque de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse 2, voilà, avec le dogme et tout ça, là, c'était détenu par des gens qui dirigent une sorte de ville de plouc, qui terrorise cette ville de plouc. Les flics ont peur d'eux, tout le monde a peur d'eux, le docteur a peur d'eux, voilà, et c'est eux qui dirigent la ville. Et ce Paul Smith, une ordure finie, qui est un méchant incroyable, et copain avec Brad Dourif, voilà. Et lui, il vit tranquille dans son petit endroit étrange, là, avec sa femme, David Carradine. Bon, voilà. Et qui est aussi chanteuse à ses heures perdues. Je rappelle que David Carradine, d'ailleurs, était vraiment chanteur, parce que lui, il enregistrait des albums, d'ailleurs, ça s'entend. C'est plutôt émouvant quand il chante dans le film. Et un jour, Brad Dourif, qui est un de leurs potes, qui gravite autour d'eux. Il y a aussi un petit vieux étrange là, qui gravite autour d'eux. Enfin bref, qui sont des sales types, en fait, volent une bagnole. Parce que c'est une gigantesque cache chez lui, il récupère plein de trucs, des télés, des machins, que des trucs volés. Il vit que de ça, de toute façon, on ne sait pas trop de quoi il vit. Et dans cette bagnole, il y a un bébé. Et il décide de garder le bébé, enfin surtout la femme, hein, qui lui fait un chantage. Et donc Paul Smith décide d'élever le bébé comme lui il a été élevé. Donc il le met dans une baraque en tôle, il lui met une chaîne autour du cou, et bah, le gamin restera là jusqu'à sa majorité, et quand il a, enfin même à vie, hein, je pense que c'était prévu qu'il reste à vie, et quand il a besoin de lui pour aller terroriser quelqu'un et tout, il le détache, il le met dans sa voiture, puis il le lâche, comme ça il va terroriser, manger, tuer ses ennemis. Voilà. Donc c'est ce fameux Sonny Boy, et élevé à la dure, c'est le moins qu'on puisse dire, qui d'ailleurs, pour son anniversaire, je sais plus si c'est pour ses 4 ans, je crois, à un moment... 3-4 ans, voilà, son père lui offre le don du silence, il lui coupe la langue. C'est son cadeau. Et puis, évidemment, il va y avoir une jeune fille qui va un peu tomber sous le charme de ce Sonny Boy, Sonny Boy va aussi tomber sous le charme de cette jeune fille, et puis ça va être la destinée de ce Sonny Boy au milieu de ce monde étrange, ce Sonny Boy qui va vivre une aventure digne un peu, qui est une sorte de remake aussi, on en parle jamais, mais de The Bride of Frankenstein, je trouve un peu de James Whale, parce qu'il vit un peu les mêmes péripéties, quoi. Il rencontre la fiancée, il découvre l'alcool, il est pourchassé par les gens du village armés jusqu'aux dents qui veulent le tuer. Donc on est très proche de tout ça. Et ce film, pour moi, c'est un miracle. Photo superbe. Alors la musique, qui est un peu pompée d'ailleurs, qui revient tout le temps, c'est même pas gênant. Il y a une sorte de miracle qui s'opère sur ce film, qui est un peu un film magique, où Robert Martin Carroll fait le film de sa vie. C'est son seul grand film, hein, c'est son seul film... c'est un film extraordinaire pour moi. Et j'ai réévalué en le revoyant. Je suis content parce que des fois, on revoit des films comme ça qu'on a adoré à l'époque de la VHS, on est déçu. Et là, non. Et la copie est quand même chouette. Et ce qui est vachement intéressant, en plus, dans ce film, c'est que ce gamin, il est quand même humilié, il est torturé pour être amené à l'état d'animal, en fait. Hein. Et malgré tout... les parents ne sont jamais montrés comme des monstres. Il y a un vrai amour pour les personnages et ça fait un film de frics très très étrange, très hors norme, très singulier, qui pour moi est un film unique mais à posséder absolument dans sa vidéothèque parce que c'est un exemple unique de ce que le cinéma peut produire de manière complètement hallucinante avec un producteur italien qui est venu s'égarer, producteur de Nanar qui est venu produire ça. Comment on a pu accoucher d'un tel film, d'une œuvre si personnelle, une œuvre qui s'inscrirait presque, j'ai envie de dire, dans le sillage de ce que pouvait proposer le nouvel Hollywood.
Oui, c'est un film assez étrange. En plus, c'est un film qui vient tard, hein. C'est fin des années 80, il me semble. Hein. C'est 88 ou 89. Donc, effectivement, par rapport au nouvel Hollywood, c'est très décalé. Et donc, je pense aussi que le film a été... il le dit Maxime Lachaud dans les bonus, le film a été mal reçu parce qu'il est venu trop tard. Et... par rapport à ce que tu soulignes, c'est vrai que ce mec, c'est une ordure, mais vraiment, c'est un salopard. Mais le réalisateur, il arrive à créer de l'empathie pour ses personnages, et même ce fils adoptif, qui est élevé comme un monstre, il les aime, ses parents. C'est ça qui est étrange. Mais en même temps, il ne connaît pas autre chose. Donc, il n'a pas d'autre référence que la façon dont ses parents adoptifs l'élèvent. Mais effectivement, il y a ce... David Carradine, on ne sait pas très bien s'il joue un homme qui est déguisé en femme ou s'il joue une femme.
On a un indice, c'est-à-dire qu'à un moment, il donne le sein avec des faux seins chargés de lait. Donc c'est un homme déguisé en femme. Par contre, dans leur vie de tous les jours, il est considéré comme une femme. Ouais. Enfin, je pense, hein, moi, je pense que le moment où il donne le sein avec les faux seins, là, je pense que du coup, ça trahit. À la limite, il n'y aurait pas eu cette scène, tout le long, on se serait demandé si c'était une femme.
Oui, mais est-ce que c'est dans le film ou c'est pour le film? Tu vois ce que je veux dire?
On voit bien que c'est une machine quand même.
À un moment, il y a un plan où on voit que c'est des faux seins, des biberons, etc. Mais je me demande si c'est pas une erreur de montage ou.
Je pense pas parce que le film est quand même assez soigné quand même.
Ouais. Et même les ploucs, c'est un film de ploucs aussi. Hein. C'est un film de redneck. La façon dont il est dépeint, il y a une séquence assez étrange où il rentre dans une caravane avec une blonde, une jolie femme, mais qui a des chicots à la place des dents. C'est vraiment un film bizarre, quoi. Mais à aucun moment, il fait en sorte qu'on déteste ces personnages qui sont pourtant des mecs pas très recommandables. Brad Dourif, il tue les parents de Sonny Boy au départ pour leur voler leur bagnole. C'est quand même un salopard aussi, quoi. Mais il crée un microcosme étrange. C'est un film entre... Mais même la fin, qui pourrait être apparentée à la scène du moulin dans Frankenstein, hein, comme tu le disais, il y a quelque chose de Mad Max aussi, quelque part, dedans. C'est un film hors du temps, quand même.
C'est un film unique. C'est vraiment... c'est un film totalement singulier, complètement hors norme. Et puis, moi, je voulais quand même signaler que cet objet filmique non identifié, cet OVNI, voilà, est quand même magnifiquement éclairé par Roberto Dettore Piazzoli. Et si on se penche sur la carrière de ce directeur de la photo,
on est quand même assez bluffé de voir ce qu'il fait dans ce film-là, puisque c'est quand même le directeur de la photo de Star Crash, Le Choc des Étoiles, qui est un film qu'on aime bien, mais enfin qui ne brille pas par une photo extraordinaire, de Piranha 2, on ne peut même pas dire que ça... Voilà, de toute façon, il y a même des scènes où on ne distingue strictement rien sur Piranha 2, donc voilà. C'est étonnant, même la, comment dire, la musique de Carlo Maria Cordio, c'est quand même le mec qui fait la musique des films de Joe D'Amato, quoi. Troll 2, de Claudio Fragasso, ça par contre, le copain de Mattei, et qui fait la BO de Horrible, avec l'ami Luigi Montefiore, il y a le Gladiateur du Futur aussi, enfin bref, c'est pas le compositeur des BO les plus remarquables de l'histoire du cinéma, et là ça passe crème, quoi. C'est vraiment un film étrange, c'est vraiment un film... pour moi, c'est un film qui mérite totalement le statut de film culte. Vous écoutez Culture Prohibée, spécial fantastique et horreur. On va rester avec quelqu'un qui a signé des films cultes, qui est un réalisateur culte, qui avec celui-là signe son dernier grand film, pas son meilleur film, mais en tout cas son dernier grand film, c'est Larry Cohen, créateur quand même des Envahisseurs, hein, voilà, pas n'importe qui Larry Cohen, moi que j'adore, hein, dont on avait parlé pour Golden Me Too, qui est certainement avec Le Monstre est vivant son meilleur film. Après, c'est aussi l'homme qui a lancé la Blaxploitation sur un terrain plus commercial, on va dire, avec sa série des Black Kaiser, tout ça. Et il signe en 1990 un film qui est donc une ode à la, comment dire, à la coiffe mulet, hein, à la coupe mulet, avec Eric Roberts, qui est quand même une magnifique coupe mulet dans le film. C'est L'Ambulance. L'Ambulance, qui raconte l'histoire de Joss Baker. Alors, ce qui est cool dans le film, c'est qu'il y a Stanley et qu'on est vraiment dans les bureaux de Marvel et qu'il y a des super belles planches de dessin et tout parce qu'Eric Roberts campe Joss Baker, qui est un dessinateur qui travaille donc pour Marvel, hein, et qui croise dans la rue, tombe tout de suite amoureux d'une jeune femme, Cheryl, et celle-ci s'effondre, elle est ramassée par une ambulance, puis elle disparaît. Elle n'est admise dans aucun hôpital de la ville. Alors, il se met à la chercher et il découvre, alors que personne ne le croit, dans un monde incrédule, voilà, comme toujours chez Larry Cohen, hein, voilà, il est seul contre tous et il y a le complot, la paranoïa qui se développe, et il se met à chercher cette femme et il découvre qu'avec cette ambulance se passe un bien étrange trafic et il va décider de partir à sa recherche. Donc le légendaire Larry Cohen là, nous signe une série B trépidante avec un Eric Roberts dans le rôle principal. Et puis aussi dans un second rôle, un acteur que j'aime beaucoup, qui était le méchant Tulsa Doom dans le Conan le Barbare de John Milius. Gloire à toi, John Milius. C'est James Earl Jones, qui s'en donne à cœur joie dans le rôle d'un flic totalement incohérent, d'ailleurs, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Mais c'est pas grave, il est tellement drôle, il est tellement bon. Enfin bref, Damien, cette ambulance, elle t'a transporté aussi.
C'est un film extrêmement drôle. C'est intéressant parce que, vu le résumé, je m'attendais à un film à suspense, un trailer. Et c'est un film qui a énormément d'humour et qui est drôle. Ce qui, certains films essayent d'être drôles, mais ils ne le sont pas. Et il arrive à marier les deux parfaitement. Il souffle d'ailleurs sur une phrase qui est un peu un avertissement qui est censé donner le ton au film. Et on comprend très vite que c'est pour faire la comédie. Il souffle sur... voici ce qui peut arriver à un homme qui aborde des femmes qu'il ne connaît pas dans la rue. Et à partir de là, toutes les péripéties se rendent. Le plus dingue, c'est que c'est une phrase qui refait écho plus tard, quand il va voir les policiers, qui leur explique qu'il a rencontré une femme qui s'est évanouie devant lui, qui ne connaît pas son nom, mais qui veut l'aider et tout. Et que les policiers, une des policières, le regarde en fait, mais vous faites souvent ça de manière assez dégoûtée. Et il répond de manière le plus calme possible. Vous savez, j'ai ça en moi, je ne le contrôle pas et tout. Ce qui est le genre de réplique qu'on ne peut plus avoir aujourd'hui dans les films. Donc, comme tu l'as dit, c'est un dessinateur de Marvel qui travaille pour... Stan Lee, c'est son premier caméo, mais dans le film, il l'appelle constamment Stanley. C'est assez brouillon parce qu'on comprend qu'il joue son propre rôle, mais en même temps, c'est pas lui. C'est-à-dire que c'est le superviseur de Josh qui doit créer une BD sur le héros qui s'appelle Dr. Strange, je crois. Dr. Strong, qui doit être un super-héros. Et c'est drôle parce qu'indirectement, au final, j'imagine que Josh va utiliser son expérience de tentative de sauvetage d'une femme qui a disparu pour alimenter son personnage. L'intrigue, aussi improbable soit-elle, s'écoule d'une fluidité remarquable parce qu'on a quand même un mec que personne ne croit qui part chercher une ambulance d'une autre époque, littéralement, vu que les ambulances ne ressemblent même pas à ça dans le film. De manière générale, il est assez prévisible, mais il garde un excellent rythme et il a des enjeux qui fonctionnent. Ils ne sont pas énormes, mais ils fonctionnent vraiment parce que l'un des points qui est vite abordé, c'est que les personnes qui disparaissent ont tous un point commun, c'est qu'ils ont du diabète. Ce qui est étrange parce que il y a énormément de choix pour choisir des victimes. Ça peut être le lieu où ils habitent, leur sexe. Mais non, là, c'est une maladie qu'ils ont, qui font qu'ils sont la principale cible du coup d'un médecin qui veut l'utiliser dans un trafic humain. Et ce médecin, ce qui est encore plus bizarre, je trouve, c'est qu'il est joué par Eric Braeden, que moi, je connais uniquement pour son rôle dans Les Feux de l'amour, parce qu'il joue Inhuman, qui est considéré pour beaucoup comme un sous-vilain, enfin, comme un vilain qui n'a pas assez d'importance dans la culture supérieure à Dark Vador. Et justement, vu qu'on parle de Dark Vador, tu l'as dit, il y a James Earl Jones qui joue un policier incroyable, constamment finalement énervé, qui supporte pas son assistante, qui débarque en lui disant qu'elle lui a pris qu'il a un rendez-vous chez le docteur jeudi, et il pète un câble parce qu'il est pas au courant qu'il a une carie, et ça l'insupporte que son assistante soit à l'avance au courant de tous les problèmes qu'il y a. C'est des personnages qui sont tous incroyables dans un film. C'est vraiment ça que je trouve incroyable dans ce film, c'est qu'il mêle vraiment trailer et comédie à la perfection jusqu'à la fin, qui m'a fait énormément mourir de rire également. Mais ce film est génial. Il est différent de Meurtre sous contrôle, mais je l'aime tout autant.
Un peu moins fun, Thomas, tu es venu avec un autre film sorti chez nos amis d'Extra Lucide Film.
Oui, je suis venu avec un film qui sort dans la collection Extramonde, donc My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, un film qui est inédit en salle en France et qui est réalisé par Jonathan Cuartas. Tout à l'heure, on parlait de Sonny Boy qui évoquait la thématique de la famille. Eh bien, My Heart Can't Beat Unless You Tell It To continue un peu à creuser ce sillon de la, de la thématique de la famille. Et il raconte en suivant un frère, une sœur, qui se retrouvent en désaccord sur les soins apportés à leur jeune frère. Leur jeune frère fragile est atteint d'une étrange maladie. Même s'il ne s'agit pas cette fois d'un film de exploitation, son réalisateur Jonathan Cuartas décrit un autre versant de l'Amérique, celle des faubourgs des grandes villes, où se situe l'essentiel de l'action. Autant le film de tout à l'heure, Sonny Boy, est un film d'horreur et d'action, autant My Heart Can't Beat Unless You Tell It To, tout en se montrant singulier, privilégie l'atmosphère, la psychologie de ses personnages, sans aucun effet spectaculaire. Jonathan Cuartas fait le choix du format 1.33 pour raconter cette histoire de vampire qui évoque aussi les liens familiaux et ses interdépendances. Les plans sont souvent fixes et ils jouent sur leur durée et le malaise qui finit par s'en dégager. Ainsi, il fait ressentir le sentiment d'enfermement qui étreint Dwight, le grand frère, qui aimerait pouvoir se libérer de ses contraintes. My Heart Can't Beat Unless You Tell It To adopte la forme d'un film indépendant pour raconter une histoire entre le drame familial et le film d'horreur, pour raconter la solitude des individus, leur rêve d'ailleurs à d'évasion, mais aussi le sort réservé aux marginaux, aux SDF, aux prostituées ou aux migrants, par une certaine élite. Avec cette forme contemplative, ce rythme lent, les éclats de violence paraissent encore plus brutaux, sans se laisser aller à quelques effets sensationnels. My Heart Can't Beat Unless You Tell It To est une relecture du mythe du vampire sombre et mélancolique, loin des clichés liés au genre, une œuvre qui n'est cependant pas dénuée d'espoir. Alors, quelques mots sur ce combo DVD-BR, dans lequel on peut trouver des entretiens intéressants avec Jonathan Cuartas et le directeur de la photo, Michael Cuartas, qui explique un peu tous les deux leur choix de mise en scène. Et il y a aussi un court-métrage, The House on the Stag, dans lequel se trouvent déjà des thématiques présentes dans le long-métrage, comme les liens familiaux, l'interdépendance, la marginalité. l'expression de la violence est toujours dans une forme sèche et contemplative qui, parfois, peut aussi laisser les explications au bord du cadre.
Des photos post-mortem de personnes décédées. Est-ce que c'est légal ?
On a beaucoup de morts dans notre village. Vous viendrez ?
La terre est gelée ici. Impossible d'enterrer les dépouilles depuis des semaines.
Il vient d'arriver. Tu peux l'héberger ?
J'ai entendu du bruit cette nuit.
Vous avez peur du mort ? C'était quoi, ça ?
Nous allons terminer cette émission avec un film qui avait été sélectionné dans la dernière édition du festival de Gérardmer. Un film hongrois, c'est quand même particulier. Un film qui avait même été d'ailleurs représenté la Hongrie aux Oscars. Ça, c'est plus étonnant quand même. Même si c'est un film de très bonne qualité, mais c'est plus étonnant de par le choix du film, parce que c'est un film vraiment singulier, un vrai film fantastique, qui est un film de Peter Bergendi, qui est un film hongrois, donc qui raconte l'histoire suivante. Ça se passe en Hongrie en 1919. Et on a Thomas qui est revenu du front alors qu'il était laissé pour mort sur le champ de bataille et qui miraculeusement revient du front et travaille dans une foire itinérante. Et il est photographe post-mortem, c'est-à-dire qu'à la demande des familles, il va, par exemple, je sais pas, il y a une jeune fille qui est morte, il va l'habiller, la faire belle et la poser entre les parents et ils vont prendre une photo comme si elle était encore vivante. Une chose qui se pratiquait beaucoup auparavant, hein, qui se pratique plus du tout aujourd'hui évidemment, mais qui se pratiquait énormément, hein, les photographies post-mortem. Et il y a une petite fille qui vient le chercher, une petite fille qu'il a d'ailleurs déjà vue en rêve, hein, dès le début du film, au moment où il était entre la vie et la mort. Et cette petite fille, Anna, vient le chercher et elle lui dit de venir dans son village, qui est très endeuillé et qui surtout est hanté par des spectres quand même assez... C'est agressif, hein, ça rigole pas beaucoup. Et mon cher Thomas, là, on va avoir affaire à un film, pour le coup, qui illustre de manière, je trouve, moi, assez singulière, en tout cas, le thème des fantômes. C'est une façon de voir les choses qui m'a assez charmé. Ce film m'a vraiment, malgré quelques longueurs, le film m'a beaucoup plu, je le trouve très élégant, très très bien mis en scène, la photographie est superbe, avec des scènes vraiment de frousse, quoi, vraiment dans le film. Seul regret, c'est que le film est un peu prévisible par contre dans son déroulé, mais je trouvais que c'était un film très très intéressant.
Je suis d'accord avec toi, le film est élégant, il est bien fait, un beau scope, belle image, etc. Par contre, moi j'ai jamais eu peur. J'étais vraiment déçu, j'ai jamais eu peur. Et bon, par contre, le film, il y a des images choc. Hein. J'ai jamais eu peur. Et bon, il y a un moment, je me suis un peu désintéressé du film parce que ça ne fonctionnait pas beaucoup sur moi. Et j'ai un peu vite vu où il voulait en venir, même si je me suis un peu égaré à un moment. Mais j'ai un peu vite vu où il voulait en venir. C'est l'histoire classique de... pour que les morts trouvent le repos, en fait. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça que ça raconte. Et donc, du coup, j'étais un petit peu déçu. Mais c'est vrai que le film a quand même une identité, notamment certaines séquences dans l'au-delà, qui sont assez étranges, où il y a une mise en scène assez particulière. Mais moi, j'étais un peu déçu, en fait. Hein.
Moi, ce que j'aime bien, c'est cette idée de ce qu'on rattacherait plutôt au folklore japonais, en fait, d'utiliser l'idée de l'eau pour symboliser comme ça l'au-delà et l'irruption de l'eau pour l'irruption de l'au-delà dans le monde des mortels, quoi. Voilà, j'ai trouvé que c'était une fort belle idée et que le film regorgeait de scènes particulièrement marquantes, assez étonnantes. Et le final est tout de même assez étonnant. Le final est un peu étonnant parce que le final donne l'impression que on pourrait assister à une série de films avec les mêmes personnages qui sont des, je sais pas, qui vont guérir les morts ou qui vont traquer les fantômes, un peu à la façon de Conjuring, mais alors en mode contemplatif, cinéma d'auteur hongrois. C'est un peu étonnant cette façon de faire et qui du coup je trouve que ça contraste un peu avec le reste du film. Qui est un film un peu plus sérieux, ça donne un petit côté série B à la fin.
C'est aussi un film où ce sont deux personnes qui se cherchent, qui cherchent un but dans leur vie. Ce sont deux personnes qui se trouvent, en fait, voilà, et qui trouvent un but commun dans la vie, parce que ce personnage, après avoir vécu la guerre, il est un peu perdu, il s'emmerde un petit peu dans son boulot. Enfin, c'est pas un boulot super excitant non plus. Hein. Et donc, c'est un peu des personnages qui se cherchent et qui finissent par se trouver, qui finissent par trouver un but dans leur vie. Et bon, cinéma d'auteur, oui, mais il y a quand même quelques séquences assez chocs. Et puis, il malmène un peu ses personnages, hein, notamment des enfants. Ah oui. C'est des choses qu'on ne voit plus beaucoup dans le cinéma aujourd'hui, notamment le cinéma américain. Il y a des scènes, il y a des images un peu dégueulasses. Hein.
Oui, ça rigole pas. Et même cette relation entre la petite fille et l'homme est particulière quand même. C'est une relation qui n'est pas amoureuse, mais qui est quand même qui n'est pas charnelle, mais qui est amoureuse. En tout cas, voilà, c'est une relation un peu étonnante. On peut même se poser la question d'ailleurs si ce sont pas deux fantômes. Ouais, en fin de compte, c'est ça la vraie question du film, au bout du compte. Est-ce que ce ne sont pas deux fantômes, en fait ?
Oui, moi, c'est ce que je pensais au départ, c'est qu'il était mort, en fait. Mmh, c'est qu'il était mort, qu'il avait une sorte de mission. Enfin, déjà, ils ont une mission.
Bien sûr.
Ils ont une mission, et quelque part, c'est un peu comme un duo de super-héros, quelque part. Comme une équipe de super-héros. Bon, ils sont deux seulement, mais il y a un peu ça, quoi. Mais bon, moi,
Bah on peut douter de ça un moment, parce qu'il y a un personnage qui vient sauver Thomas. Il s'appelle Thomas, le héros, comme toi, mon cher Thomas, même si tu n'es pas héros de ce film. Mais
je suis bien vivant.
Tu es bien vivant, voilà. Mais à un moment, je crois que c'est l'institutrice hein, qui en pince un peu pour lui. Les femmes en pincent un peu pour lui, c'est un beau jeune homme, tout ça. Puis bon, il faut dire que le village, bah, c'est un peu étrange, quoi. Donc ils ont pas beaucoup. Ils voient rarement arriver un beau jeune homme dans le village, quand même. Hein. C'est un peu perdu, c'est un peu austère. Et puis bon, bah, c'est un peu glauque, hein, parce qu'on fait quand même porter, certaines familles font porter des sacs en papier sur la tête des enfants. Il y a des images particulièrement marquantes dans le film, hein, pour pas qu'ils croisent le regard justement d'un fantôme, ou pas qu'ils se fassent happer comme ça par le monde des morts. Donc c'est très particulier, il y a des scènes très étranges, et elle va quand même le rechercher comme pour lui sauver la vie. Donc on peut se poser la question, est-ce que simplement ils sont parvenus du royaume des morts et ils ont donc des dons paranormaux que n'auraient pas les autres, voilà, c'est qui pourrait être exploité d'ailleurs par le réalisateur s'il a envie de donner une suite à son film. Enfin bref, Post-Mortem, on vous le conseille, c'est, comme tu l'as dit, c'est un film de fantômes atypique, singulier, et dedans on y voit des choses qu'on ne voit pas effectivement dans le tout venant, j'ai envie de dire, des films de fantômes, en tout cas ceux qui sont un peu produits à la chaîne ces dernières années, un peu à cause de l'ami James Wan quand même, hein, voilà, et là on est dans quelque chose d'un peu, enfin, de vraiment différent, de vraiment très assez singulier, même si au final l'histoire est assez classique dans le terme d'histoire de fantômes, mais le traitement reste assez singulier. C'est ce qui en fait quand même un film, enfin pour moi, une bonne surprise, vraiment un film à voir. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine !